La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Chers auditeurs, bonjour. Pour poursuivre ce chemin de fraternité, nous allons aller visiter Joseph et ses frères, en Genèse 37-50. Alors Jacob, qui aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, lui fit faire une tunique de grand prix. Mais en voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci. Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Joseph, un jour, veut chercher ses frères. Il les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Finalement, ils le jetèrent dans une citerne. Et comme il est dit en 21-30, ils ne le tuent pas, mais le vendent à des Ismaélites. Joseph est vendu à des marchands et arrive chez Potiphar. Il devient vice-pharaon, où il est faussement accusé de tentative de viol et se retrouve en prison. Mais là, il rencontre deux prisonniers de haut rang dont il interprète les rêves. Ce charisme va se trouver mis à profit pour interpréter les rêves de Pharaon en prédisant la terrible famine qui se profile et en donnant de sages conseils pour y faire face. La famine alors frappe si largement la région que Jacob et les siens sont menacés de mort en Canaan. Le père envoie donc ses fils en Égypte acheter des vivres et là il retrouve Joseph sans le reconnaître. Mais Joseph, lui, les reconnaît. Il les rudoie, les jette 3 jours en prison. Puis, ils le reconnaissent. Cette rencontre inattendue et éprouvante les amène à revenir sur leurs fautes passées et à dire devant Joseph leur histoire avec lui. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Ruben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Ensuite, il revint près d'eux et leur parla. Parmi eux, il choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Puis le père de Joseph meurt. Et après le décès, les funérailles de son père en Canaan, Joseph scelle à jamais la réconciliation avec ses frères qui craignaient sa vengeance. Pour resituer ce texte, regardons le livre de la Genèse qui se termine par ce roman de Joseph. C'est l'histoire d'un garçon qui échappe au fratricide en étant vendu comme esclave en terre étrangère, où il deviendra vice-roi et fera bénéficier son indigne famille de sa générosité, sans rancune. Ce récit montre bien que la fraternité ne se résume pas à l'existence d'une fratrie et qu'elle peut être aussi le théâtre d'une antipathie violente entre les membres d'une même lignée. Et pour que la fratrie devienne une fraternité, il faudra bien vaincre des obstacles au cours d'une longue histoire. Les uns et les autres devront faire une part du chemin en faisant l'expérience de la privation, voire de la détresse, pour comprendre celle des autres et aboutir à la réconciliation. On peut se demander où est Dieu dans cette histoire. À la différence de récits bibliques qui disent les merveilles de Dieu, à coups de miracles pour venir au secours d'un peuple en difficulté, le roman de Joseph est extrêmement discret sur les interventions divines. Pas de miracle pour sauver Joseph, ni de ses frères, ni de la femme de Potiphar. Pas d'apparition divine. La présence de Dieu à cette histoire est presque invisible. Elle ne se déclarera clairement qu'à la fin dans la relecture qu'en fera Joseph. Au premier plan, et c'est toujours ainsi, ce sont les hommes qui mènent le jeu ou subissent les aléas de leur histoire. Ils se trouvent jetés dans des situations qui sont la suite de leur passion et de leur choix. C'est dans une théologie de l'histoire que Joseph énonce par deux fois dans le dénouement du drame. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, pour votre bien. » La réaction n'est pas la surprise devant un miracle physique impressionnant, mais la reconnaissance éclairante du cours inattendu des choses humaines, vécues et reconnues par des gens qui avaient le sens de Dieu. Il excelle à faire advenir le bien là où les hommes ont déclenché les agressions du mal. Regardons les obstacles à des relations fraternelles et ce qui met en route vers la fraternité. Joseph n'est pas innocent dans l'histoire qui lui arrive. Il vit mal la situation de fils préféré. Il la vit mal, pas seulement en ce sens qu'il est coincé entre l'amour de son père et la haine de ses frères, mais en ce sens aussi et surtout qu'il s'enfonce lui-même dans la mise à part. Son père ne sait pas trop qu'en penser. Il l'envoie trouver ses frères, partis paître le troupeau au loin, dans l'espérance d'établir une meilleure relation et de lui rapporter des nouvelles de paix. Égaré, il rencontre un homme qui l'amène à dire ce qu'il cherche, ses frères. Il cherche des frères, mais ce n'est pas sans drame qu'il va les trouver, et en tout cas pas tout de suite comme frères, mais comme d'éventuels fratricides. L'homme des songes se trouve exposé à leur intention meurtrière, à laquelle il n'échappe qu'en étant vendu comme esclave. Pendant cet épisode, Joseph, éloigné de son père, nu et dépouillé de sa tunique princière, est absolument passif et dépendant. Il se tait. Et puis, il devient sage, mûri dans l'épreuve. Cette phrase du récit représente un moment capital dans la transformation humaine et spirituelle de Joseph, sans laquelle il n'aurait pas été capable de se comporter comme il le fera plus tard avec ses frères. Importance d'échapper aux mensonges, apprendre à ne pas rendre le mal pour le mal, faire confiance à Dieu qui conduit l'histoire. Il vit un temps de maturation. Le troisième temps se vit 20 ans après le rapt de ses frères. Il reçoit leur visite d'Hébreux affamés par la famine, à laquelle sa sagesse d'administrateur fait face. Il les a reconnus, mais pas eux. Il se prosterne devant lui comme dans ses rêves. Il les amène à dire qui ils sont, à parler de leur père, de leur dernier jeune frère Benjamin. En les mettant 3 jours en prison, en gardant un otage, Siméon, et en leur demandant de revenir avec Benjamin, il les amène à entrer en eux-mêmes et à exprimer devant lui la conscience de leur faute passée envers lui. Et puis, Joseph se retire pour pleurer. Sa froideur extérieure masque l'émotion intérieure. Il les amène à commencer de faire la vérité sur leur histoire, qui seule peut fonder la fraternité par le pardon. La deuxième rencontre, quand les frères reviennent avec Benjamin, donne aussi l'occasion à Joseph de montrer toute une pédagogie de retournement spirituel. La fraternité repose maintenant à ses yeux sur des bases de vérité et de dépassement de soi. Il n'est pas question de faire des reproches, de demander des réparations. Il y a seulement la joie des retrouvailles. Ils sont frères jusqu'au pardon. Le récit de la parfaite réconciliation n'est pourtant pas encore arrivé à sa fin. Il faut attendre que Jacob soit mort et enterré. Tant qu'il était de ce monde, son autorité paternelle pouvait maintenir la fratrie dans l'unité. Mais que va-t-il se passer maintenant qu'il n'est plus là? Nous continuerons demain, chers auditeurs, avec l'épilogue de ce passage biblique de Joseph et de ses frères. À demain.